Dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. On débute la semaine avec un soleil radieux malgré les orages qui vont nous arriver le soir, comme c'est de coutume maintenant depuis quelques jours. Bonjour David Torchala.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors vous David, tous les lundis on parle tout simplement de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis si on regarde sur un calendrier, le mois de mai c'est vraiment le mois des jours fériés. Et il y a un pont qui est important, celui de l'Ascension.
Oui c'est vrai, et bien quand on fait le pont, et bien on a du temps pour venir à Lourdes. Et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement nombreux à être là. Alors ne parlez pas trop d'orage parce que vous allez faire peur à tout le monde. Mais voilà, donc il y a énormément, le sanctuaire est très fréquenté en ce moment. Et particulièrement, vous avez raison Philippe, pendant ces week-ends prolongés.
Voilà, ces week-ends prolongés, il faut bien sûr s'en réjouir. Et puis on devait parler du mai du livre, mais je pense que René Truss, on l'aura au téléphone très très prochainement pour parler de cette belle opération à Tarbes qui aura lieu cette année à la Marcadieu. Eh bien, à la place, on aura une maison d'édition qui participe donc au mai du livre, qui sera avec nous, puisqu'on parle bien sûr dans le mai du livre, eh bien, de toutes les, absolument des livres, mais également de ceux qui les font, c'est-à-dire les maisons d'édition. Et puis, vous en avez parlé la semaine dernière, c'est l'invité de Mathias Terrier, les foulards blancs. Avec nos scouts, voilà, qui sont l'invité de Mathias Terrier dans Un jour, un livre, un auteur. Mais pour l'heure, juste un petit point sur l'actualité. Et on retrouve notre journaliste, plutôt étudiante, la journaliste à l'ICT de Toulouse, Ambre Pagès.
À partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 mai, des communes du Gers accueillent la Mamobile. Le dispositif permet aux femmes qui n'ont pas forcément accès aux infrastructures médicales en campagne de se faire dépister contre le cancer du sein. La ligne T1 du tramway toulousain sera totalement à l'arrêt ce lundi 11 mai et mardi 12 mai en fin de soirée, afin d'effectuer les essais pour la future ligne aéroport, annonce Tisséo. Les derniers départs auront lieu à 23h56 à la station Palais de Justice et à 22h50 au MIT. L'Occitanie de nouveau frappée par un épisode d'intempéries importantes. Hier, certains départements de la région étaient encore placés en vigilance orange pour risque d'orage par Météo France. De la grêle et d'importantes rafales de vent ont accompagné cet épisode orageux. Plusieurs chantiers vont avoir lieu dans le centre-ville de Montauban. Ces travaux sont effectués pour rénover et créer de nouveaux trottoirs. Une première phase de rénovation se déroule depuis lundi dernier rue Émile Pouvillon et s'achèvera le 22 mai. La seconde phase aura lieu à partir du 18 mai jusqu'au 19 juin sur l'avenue de Cosse. La circulation sera adaptée. Lors du 66e pèlerinage militaire international à Lourdes sera marqué cette année par le concert de la Marine nationale. La flotte française fêtera son 400e anniversaire à cette occasion le 23 mai, place de l'Église. Et enfin, le Stade toulousain toujours en tête dans le classement du top 14 après sa victoire face à Toulon le samedi 9 mai au Stade Vélodrome à Marseille. Les Toulousains l'ont emporté 51-27 et assurent leur première place devant Montpellier avec 22 points d'avance.
Merci beaucoup Ambre Pagès, on vous retrouve tout à l'heure à 12h30.
Présence dans la cité mariale 96.
Vous l'avez entendu, et David Torchala, à l'instant, un beau concert que va nous faire donc la marine dans le cadre du pèlerinage militaire international qui aura lieu d'ici quelques jours. Mais pour l'heure, en ce qui concerne donc l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, vous avez décidé de nous parler du pont, du viaduc, je dirais, de l'Ascension.
Mais oui, parce que c'est toujours l'occasion de pouvoir prendre le temps en famille de venir à Lourdes. Alors si l'idée, vous venez de venir au sanctuaire, je voudrais vous dire à peu près les choses qu'il ne faut pas manquer, en tout cas les célébrations, les activités qui sont essentielles et qu'on connaît peut-être moins bien. Je veux parler par exemple du chemin de grâce, le chemin de grâce avec Marie. Ça, c'est une nouveauté de l'année 2026. Vous savez, chaque année, il y a un thème à Lourdes pour un thème pastoral. Cette année, eh bien, c'est cette phrase de l'ange à Marie, je te salue, comblée de grâce, et qui est déclinée année dans tous les pèlerinages français, mais aussi internationaux. Et pour ceux qui n'arrivent pas avec un pèlerinage à l'autre, qui ne viennent pas de manière organisée, mais plutôt de manière spontanée, eh bien, il est possible de découvrir en tout cas ce thème, de l'approfondir à travers ce chemin. C'est vraiment une expérience spirituelle qui est guidée en 6 étapes, hein, qui propose vraiment de parcourir certains lieux emblématiques du sanctuaire. Je pense notamment à cette grande statue de la Vierge couronnée, à la statue plus modeste de Bernadette au Mouton, du grand calvaire des Bretons, en tout cas des lieux qui sont emblématiques, mais qui sont très forts de sens. Et donc, chacune, étape après étape, nous sommes accompagnés par un animateur en pastoral du sanctuaire, eh bien, on alterne déplacement, temps de silence, lecture de la parole de Dieu et prière. Ça dure 1h30, on peut le faire à plusieurs. Vraiment, c'est accessible, c'est une marche qui est très simple. Et puis surtout, c'est que ce chemin se termine à la rotonde du Bon Samaritain. Vous voyez, ce sont tous des lieux qu'on connaît peu du sanctuaire. Ils sont nombreux, hein. Il y a plus de 25 lieux de culte et 3 basiliques dans le sanctuaire. Donc,
j'essaye de me repérer aussi.
À découvrir. Donc, la chapelle du Bon Samaritain, elle est sur la prairie, oui, du sanctuaire. Et bien, c'est là qu'est proposé le geste de l'eau dorénavant. Vous savez que les piscines de Lourdes ont repris, comme j'ai envie de dire, d'habitude, comme avant Covid, où seul le bain est proposé, donc l'immersion dans l'eau de chacune des baignoires, des 17 baignoires des piscines de Lourdes. Et donc ce geste de l'eau est désormais proposé dans cette chapelle, qui a une forme de rotonde, toute ronde, où des bénévoles, des hospitaliers vous attendent et vous accompagnent et vous permettent d'accomplir ce geste de l'eau, voilà, tel que Bernadette l'a vécu lors de la 9e apparition, sur les indications de la Sainte Vierge, d'aller boire à la source et de se laver, de se laver avec cette eau de Lourdes. C'est très beau, c'est très simple, très très épuré. Donc ne passez pas à côté. Si vous venez pendant le pont de l'Ascension, bien découvrez le chemin de grâce avec Marie. Il y a d'autres propositions aussi. Je voudrais vous parler aussi du chemin de Bernadette cette fois-ci. C'est un chemin un peu plus long. On part là aussi, bon, sur 1h30 voire 2 heures de marche à travers la ville de Lourdes pour découvrir les lieux où Bernadette a vécu. D'abord le moulin natal, le moulin de Boli, tout près du sanctuaire, et puis également le cachot, là où vivaient les soubirous le temps des apparitions, moment où ils ont vécu tant de misères. On passe également par l'église paroissiale où on voit les fonts baptismaux de Bernadette. En tout cas, sur les pas de Bernadette, ben voilà, c'est un parcours. Là aussi, il faut y aller avec les enfants. C'est vraiment une manière aussi de découvrir à la fois Bernadette, mais aussi la sainteté de Bernadette. Et alors, il est possible maintenant de réserver directement sur le site internet du sanctuaire, de réserver l'activité. Et donc, voilà, les pas de Bernadette, c'est tous les jours à 14h. Alors aussi, autre chose, une autre nouveauté, peut-être que vous ne le connaissez pas.
J'apprends plein de choses.
C'est que il y a évidemment la possibilité de réserver son hôtel depuis le site du sanctuaire de Lourdes. Ça, c'est cette plateforme a maintenant, elle a été créée l'année dernière, donc elle a 1 an d'existence. Elle permet en tout cas de mettre le sanctuaire en relation, enfin les pèlerins de mettre en relation avec les hôtels qui sont partenaires du sanctuaire. Ils sont nombreux et donc voilà, nous recommandons certains hôtels. Ça nous permet également de pouvoir vous proposer dans la réservation de votre hôtel toutes ces informations que je viens de vous énumérer, de vous donner les horaires de départ, les accompagnements, tout ce que propose en tout cas le sanctuaire. Alors c'est aussi il y a un avantage pour le sanctuaire quand vous réservez votre hôtel, c'est que 10% du prix de votre chambre est reversé pour le sanctuaire. C'est pas plus cher que sur une plateforme ordinaire type Booking, etc. parce qu'il y a beaucoup moins de frais de commission, mais ça permet également de faire un don pour le sanctuaire. Je peux que vous inviter à passer sur le site internet du sanctuaire pour réserver votre hôtel.
Bon, on peut tout réserver maintenant grâce au site internet, les réservations des propositions que vous nous faites.
Hein. Exactement, les activités, c'est aussi une manière pour le sanctuaire de se transformer, de s'adapter, j'ai envie de dire, aux personnes qui viennent de manière comme ça spontanée, et ils sont nombreux à être là, dans le cas comme un pont de l'Ascension. Alors évidemment, c'est un moyen, hein, comme un autre, de pouvoir rejoindre les personnes là où elles sont, puis surtout de les inviter. Le jeudi de l'Ascension à 9h30 pour une grande messe internationale en cette fête de l'Ascension à la basilique souterraine Saint-Pidis, donc la messe internationale qui habituellement a lieu le mercredi, et bien là, jour de fête, évidemment, ça sera jeudi à 9h30.
Et puis c'est important aussi, David, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être avec un pèlerinage organisé, eh bien au moins on est guidé à travers le site.
Oui, c'est très vrai. Lourdes n'est pas un musée, mon cher Philippe. Ce n'est pas un musée que l'on visite, ce n'est pas un parc et jardin où on vient faire seulement des belles photos et des selfies. C'est aussi l'occasion de rencontrer pour de vrai des prêtres, des religieux, des religieuses, des bénévoles, des séminaristes, des hospitaliers, tous ces membres qui forment la communauté d'accueil du sanctuaire, et nous avons vraiment à cœur de pouvoir accueillir chacun de ceux qui souhaitent en tout cas découvrir le message de Lourdes et nous faire confiance le temps d'un accompagnement, le temps de déposer aussi les enfants à la petite maison Bernadette pour aussi fabriquer soi-même son chapelet, la bobèche aussi qui entourera le flambeau de la procession le soir, de faire un peu de coloriage aussi et faire un jeu de loi pour découvrir la vie de Bernadette. Il y a beaucoup de propositions pastorales qui sont pensées, ben voilà, c'est l'occasion d'en refaire un peu la publicité parce que ça a le mérite d'exister et c'est très beau.
Ouais, j'ai appris plein de choses de David Turchat et puis on rappelle quand même que le mois de mai c'est le mois de Marie.
Et oui, c'est le mois de Marie.
Donc, il faut venir au sanctuaire.
Exactement, vous avez raison. Et puis alors, vous verrez autour de la Vierge couronnée, ne soyez pas surpris, il y a une grande couronne de fleurs, des fleurs jaunes, des œillets jaunes magnifiques. C'est pas tout à fait au hasard, c'est parce qu'il y a 150 ans, on célébrait le couronnement de la statue de la Vierge couronnée, le couronnement de Notre-Dame de Lourdes. Et donc, en hommage, une grande couronne de fleurs est composée par les pèlerins eux-mêmes, qu'ils soient sur place ou à distance. Voilà, chacun peut, s'il le souhaite, déposer une fleur, et donc les bénévoles du sanctuaire, ainsi que la fleuriste du sanctuaire, parce que oui, il y a une fleuriste qui travaille le sanctuaire. J'embrasse Pascal si elle nous écoute. Chaque jour, ils viennent ajouter les fleurs manquantes pour former cette grande couronne. L'année dernière, on avait déjà fait cette couronne avec des œillets blancs. Il y avait eu presque 17 000 fleurs qui ont été déposées. Et donc là, en l'année du 150 ans, il y a un engouement un peu plus... Et donc, c'est très, très beau.
Mais moi, ce que je propose pour conclure cette chronique, c'est que vous nous donniez le sésame, c'est-à-dire l'adresse du site où on peut faire tout ça. Parce qu'on peut réserver aussi donc une fleur pour la Vierge couronnée.
On peut réserver une fleur. Ça, c'est aussi... On peut réserver une activité, on peut réserver un hôtel. C'est un moyen comme un autre. En tout cas, pour venir à Lourdes, vous l'avez senti, vous êtes invité. Donc, vous allez tout de suite sur lourdes-france.com. Lourdes-france.com. Mais vous tapez Lourdes sur Google, ça marche aussi. Vous tapez Lourdes sur vos réseaux sociaux préférés, ça marche aussi. Et même sur les App Store pour télécharger nos applications, on nous trouve tout de suite.
Voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a plus d'excuses. Direction pour ce long week-end de l'Ascension. Eh bien, direction le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous l'avez dit, dès 9h30, jeudi matin, cette grande messe internationale à la basilique souterraine, la basilique Saint-Pédis. Merci.
Merci. Et puis, on vous attend.
Et on vous attend. Merci, David. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le plateau du Larzac, 106.5.
Bonjour Diego Rabal.
Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Plaisir de vous avoir ce matin. Alors c'est pas pour un jour un livre, un auteur, mais vous avez une maison d'édition, vous faites partie d'une maison d'édition que vous recevez régulièrement d'ailleurs dans vos chroniques littéraires. Arcane 17, en deux mots, Arcane 17, une petite maison d'édition. Alors quand je dis petite, c'est pas péjoratif, mais parce que je crois que vous avez aussi une annexe à Paris.
Oui, alors on est une petite maison d'édition dans le sens où nous ne nous comparons pas aux grosses maisons d'édition parisiennes ou autres. On est une maison d'édition en région, donc ça c'est notre positionnement. Nous avons donc un local à Tarbes où nous sommes trois bénévoles à fonctionner dessus, et nous avons un de nos bénévoles membre du conseil d'administration qui lui est à Paris et qui a une adresse parisienne pour pouvoir fonctionner sur Paris.
Oui, ça aide d'avoir une adresse à Paris.
Oui, ça aide. Parce que je dirais on peut avoir des contacts beaucoup plus directs avec des instances avec lesquelles on peut travailler, puisque en termes d'édition, nous sollicitons un certain nombre d'aides. et aussi des collaborations. Alors on a des collaborations par exemple au niveau local, mais on a aussi des collaborations au niveau national avec des syndicats, avec des élus qui souhaitent faire connaître leurs actions. Donc on a ce niveau-là qui est intéressant parce qu'on a des entrées grâce à notre collègue en région parisienne.
Quelle est un peu la marque de fabrique de votre maison d'édition?
Alors, on est une maison d'édition qui est totalement bénévole. Nous n'avons pas de salariés. Nous fonctionnons uniquement sur le bénévolat. Notre marque de fabrique, c'est plutôt l'engagement à gauche, un engagement humaniste. Et nous fonctionnons sur à la fois des essais, donc qui représentent en gros un tiers de notre catalogue, des essais politiques, des essais sociaux et du roman. Et du roman policier, et un petit peu de poésie, sachant que la poésie est un domaine assez acrobatique, puisque c'est relativement peu lu, et nous avons quelques bons poètes qui nous proposent des choses. Donc nous, on les sort, en sachant que c'est toujours des tirages plus limités que nous ne le faisons pour le roman ou pour le polar.
Voilà, tout le monde veut plus de culture, mais malheureusement, quand il y a des choses culturelles qui sortent, peu de gens l'achètent ou le lisent.
Oui, tout à fait.
C'est regrettable, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus vendu chez vous?
Il y a deux. Nous, on a deux réseaux, enfin deux modes de vente. On a un premier mode de vente qui est un travail de collaboration avec des institutions. Par exemple, on a travaillé avec la Confédération nationale du logement qui nous a demandé de publier un ensemble de textes et de propositions sur le logement social, notamment. Donc là, c'est un contrat que nous avons passé avec eux.
C'est une commande qu'ils vous ont fait.
C'est une commande. Ils ont rédigé le texte. Nous l'avons travaillé comme un éditeur, c'est-à-dire qu'on a pris le texte, on l'a corrigé, on l'a mis en place, on l'a imprimé, et on en a vendu. Là, on a sorti, je crois, que quelque chose comme 5 ou 6 000 exemplaires qui ont été préachetés par la CNL pour ses besoins à elle. Et nous, de notre côté, nous utilisons un certain nombre de ces exemplaires pour le circuit normal que nous avons, qui est celui de notre diffuseur, un diffuseur qui est diffuseur national et qui est Pollen, et qui donc diffuse chez les libraires.
D'accord, voilà, donc il y a une précommande pour eux.
Alors il y a, voilà.
Et vous aussi, vous en avez en plus qui vous permettent d'alimenter votre réseau.
Ça, c'est une des formes. Et puis la deuxième forme, c'est les gens qui nous proposent des romans.
Vous appelez un tapuscrit au départ.
Alors des tapuscrits, tout simplement, parce que comme nous ne sommes pas tous sur place,
ça veut
et qu'on
n'est
pas assez nombreux.
Tapuscrit, c'est quoi?
Tapuscrit, c'est en fait un manuscrit, mis à part que le terme de manuscrit renvoie à écrit à la main.
D'accord.
Ce qui était le cas jusqu'à il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose, sauf exception, on a déjà eu un manuscrit qui nous a été proposé, où on a dit, soit vous le tapez, soit vous le photocopiez pour qu'on puisse le diffuser. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un texte tapé, soit au format Word, soit pour certains, ils nous l'envoient directement en PDF, donc on le lit.
D'accord.
On a un réseau de bénévoles autour de nous à qui on le propose, qui le lisent, qui nous donnent leur avis. Et en fonction de ça, on se réunit au niveau des 5 ou 6 membres de l'association. Et on définit, celui-là on va le sortir, celui-là on le sortira pas, et donc on informe les gens pour leur dire si c'est parti ou si c'est pas parti, puis ensuite on leur fait un contrat, etc.
C'est-à-dire que dans tout ce travail que vous faites, vous lisez tout ce qu'on vous envoie, et donc vous lisez, et puis vous sélectionnez.
Voilà.
Certains, comme vous l'avez dit, ne seront pas pris,
oui.
Et donc vous les informez, mais ceux qui sont pris, du coup, là va rentrer le travail de votre maison d'édition.
Alors, à partir du moment où un livre, ou du moins un tapuscrit est sélectionné pour être publié, alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape un peu, je veux dire que quand on sélectionne sur à la fois des critères cercle d'intérêt, de proximité avec notre ligne éditoriale, c'est-à-dire un, plutôt humaniste, etc. Et aussi en fonction de notre échéancier de sortie, c'est-à-dire que vu notre force de travail, on est à l'heure actuelle entre 15 et 20 sorties par an. Au-delà, c'est mission impossible, on n'est pas assez nombreux pour faire le travail. Donc, il faut aussi sélectionner. Et puis, il y a certains bouquins où on dit à l'auteur, bah, ce sera pas en 2026, mais ce sera en 2027. Alors, il y a des auteurs, certains nous envoient des tapuscrits en voulant être publiés dans 15 jours. Donc ça, matériellement, c'est pas possible. Déjà parce qu'il faut le temps de lire, mais aussi parce qu'il y a un temps de production de l'ouvrage, hein.
Il y a ce temps aussi de correction, hein, avec lui.
Alors, quand je parle de production, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lance la production du livre. Donc la production du livre, ça commence par fixer une date de sortie. On commence par la sortie, hein, fixer une date de sortie. Ensuite, quand on a la date de sortie, on va corriger le livre. Donc, on va faire appel à des correcteurs. Nous, on n'a pas, on n'a pas la possibilité de salarier quelqu'un comme correcteur dans le sens où on ne sort pas assez de bouquins.
D'accord. Donc c'est au coup par coup.
Au coup par coup. Ouais. On fait appel à des cabinets de correction, ouais, ou à des personnes qui font de la correction. Donc, on a la correction orthographique. Cette correction va être validée par l'auteur, hein. On a toujours un aller-retour avec l'auteur. Une fois que ça s'est fait, ça va passer en maquettage, donc construire l'empreinte qui va permettre de sortir le livre. Et une fois que la maquette est
la couverture et tout ça, quoi.
Voilà, ouais, on fait l'intérieur, la couverture, la mise en page à l'intérieur, ouais, éventuellement s'il y a des photos, la mise en place des photos, les différents éléments de typographie qui sont faits, on fait les couvertures, et une fois que ça s'est fait, on envoie chez l'imprimeur. L'imprimeur va faire le travail de fabrication proprement dite, hein, c'est ce qu'on appelle nous la fabrication. Donc on a la production et la fabrication qui est une des étapes de la production, et ensuite on va faire le dépôt chez notre distributeur, qui, à partir de là, va répondre aux commandes, il va faire la publicité pour le livre, et il va faire le dépôt chez les différents libraires qui lui en feront des commandes. Donc ça, c'est notre chaîne, sachant qu'à côté de ça, nous, toujours dans l'étape de production, on a une étape de valorisation immédiate, qui est la diffusion de services de presse auprès de journalistes, auprès de certains libraires, que l'on connaît et que l'on veut, que avec lesquels on travaille bien, donc on leur envoie pour que ils aient pas le temps d'attendre le commercial de chez Pollen, mais qu'ils sachent que il est là. Donc ça fait partie encore de la production de notre lectorat.
C'est passionnant, les coulisses d'une maison d'édition, où vous aviez fait déjà quelques définitions, la vie d'un livre avant même que quelqu'un le prenne dans les mains, le lise, toutes les étapes, vous les aviez détaillées. Donc, effectivement, c'est un travail colossal, entre ce que vous nous dites à début d'année, tout ce qui est administratif, parce qu'il faut l'administration, il faut gérer tout ça.
Comme dans toute association ou commerce, hein, c'est il y a cette dimension-là qui est une dimension lourde, parce que on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 100-120 000 euros. C'est pas énorme comme chiffre d'affaires, mais ça signifie des centaines et des centaines de factures. Ça signifie des dizaines de déplacements, etc., de nos auteurs, parce qu'on on prend en charge les déplacements de nos auteurs et tout. Donc ça représente quand même un gros tas de factures à trier, à vérifier, qu'on a bien sur le livre comptable, etc. Donc c'est un travail, là en gros c'est 15 jours de travail à plein temps, plus tout ce qui est de repérage des ventes, pour après dire aux auteurs, vous avez gagné tant à travers la vente de nos livres.
On termine juste en deux mots, alors très rapidement,
oui,
un succès de votre maison d'édition qui...
Alors, un succès, c'est un livre qu'on a fait paraître l'année dernière, Alors, il y a, je vais en citer deux.
Oui, allez.
Un livre qu'on a fait paraître l'année dernière et qui est en fait une compilation de souvenirs de Jacques Ralit, qui était ministre de, qui a été ministre de la Santé, me semble-t-il, sous Mitterrand. Et qui a été quelqu'un qui a énormément fait pour la culture. C'est lui qui a mis en place les états généraux de la culture, etc., dans les années 80. Et qui avait laissé plein de notes que ses enfants voulaient publier, parce qu'il est mort avant de les avoir mises en forme. Donc c'est un travail qui a été fait par nous à partir de ses textes avec ses enfants. Et donc il a été publié et qui part vraiment très très bien. Il y a eu plusieurs lectures de certains de ses textes par des comédiens de la Comédie Française à Avignon, etc. Donc c'est vraiment un beau succès littéraire pour nous, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et ça parle de culture. Et puis il y a un roman qu'on a sorti l'année dernière et qui est la collection de Mathilde, donc que dirige Mathilde, qui est une de nos collaboratrices, qui est bénévole aussi, et qui est une collection jeune public, jeune adulte. Et donc on a sorti le premier roman l'année dernière, qui a eu un beau succès. Dans les deux premiers mois, il s'en est vendu plus de 1000 exemplaires, donc c'est un beau succès. On espère que ça va continuer et on espère que ça va donner lieu. Alors c'est It Feels Like Summer. Alors c'est un titre anglais, mais c'est une histoire qui se passe dans une banlieue parisienne où dans un collège ou dans un lycée il y a un attentat et comment réagissent un petit groupe d'amis par rapport à ce qui s'est passé, à la stigmatisation de certains, etc. Donc c'est un roman qui est écrit par quelqu'un qui a 24 ou 25 ans et qui vise les 15 à 20 à 25 ans, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle du young adult et qui a été un beau succès et on espère que on en aura d'autres parce que c'est une collection qu'on veut ouvrir.
Merci beaucoup Diego Raval et puis merci. Comme d'habitude on vous retrouve le mercredi en compagnie de votre acolyte Philippe.
Oui.
Lully. Voilà. À très bientôt.
À très bientôt. À bien.
Qui chante à l'instant, c'était Céline Chimène Badi, pardon, sur Radio Présence. Allez, on repart faire un petit point sur l'actualité.
Sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Et c'est accompagné d'Ambre Pagès, élève donc étudiante à l'école du journalisme à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour Ambre.
Bonjour à tous, la Mammobile reprend la route à travers le Gers. Le dispositif mobile de dépistage du cancer du sein sera présent dans plusieurs communes gersoises à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 mai. Disponible de 9h à 12h30 et de 13h à 18h, ce projet est gratuit et accessible sur rendez-vous. Il s'adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans, n'ayant pas réalisé d'examen depuis 2 ans. Itinérant, il vise à encourager les femmes du milieu rural, parfois éloignées des centres médicaux, à se faire dépister. Une tournée qui se poursuivra du 15 au 23 juillet. La ligne T1 du tramway toulousain sera totalement à l'arrêt ce lundi 11 mai et mardi 12 mai en fin de soirée. Les derniers départs sont prévus à 23h56 pour la station Palais de Justice et à 22h50 pour l'UMIT. Cette interruption a lieu afin d'essayer les nouvelles rames pour la future ligne aéroport, annonce Tisséo. Les vigilances orages pour risque d'orage ne cessent d'être annoncées dans la région depuis plusieurs semaines. Hier, de nombreux départements d'Occitanie étaient impactés par les orages, la grêle mais aussi d'importantes rafales de vent. La Haute-Garonne, l'Ariège, le Gers, le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées étaient concernés par cette vigilance maintenue jusqu'à 21h par Météo France. Les intempéries ont débuté en début d'après-midi vers 14h dans le secteur de Tarbes avant de s'étendre vers Toulouse. Depuis lundi dernier jusqu'au 19 juin, un chantier est lancé pour rénover et créer de nouveaux trottoirs dans la ville de Montauban. La mairie a annoncé récemment ce projet afin d'assurer la sécurité des piétons et de rendre plus agréable la circulation dans le centre-ville. C'est rue Émile Pouvillon que le premier épisode de travaux a lieu. Il devrait s'achever le 22 mai. Des déviations sont proposées le temps du chantier. Le deuxième épisode de rénovation est prévu le 18 mai jusqu'au 19 juin. Les travaux concerneront l'avenue de Cosse. Une circulation alternée sera instaurée. Le 66e pèlerinage militaire international à Lourdes sera marqué cette année par le concert de la Marine nationale. Le 23 mai, le Festival international de musique militaire, qui débutera à 15h, célébrera les 400 ans de la flotte française. L'événement est ouvert au public et se déroulera place de l'Église. Et enfin, le stade toulousain s'est imposé 51-27 face à Toulon samedi 9 mai à l'Orange Vélodrome de Marseille. Une victoire motivée par la défaite des Toulousains face à Clermont le dimanche 27 avril. L'équipe de la Ville Rose maintient sa position de leader dans le classement du top 14 avec 22 points d'avance sur Montpellier.
Merci beaucoup Ambre Pagès. Le retour de l'actualité, vous en avez l'habitude, et ce sera tout à l'heure à partir de 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. Tout de suite, on retrouve De Passage à Lourdes en compagnie de Mathias Terrier.
Présence. De Passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons le scoutisme, le monde du scoutisme à Lourdes. C'est le sujet que nous allons aborder avec 3 invités. Constance, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous, Camille.
Bonjour.
Et bonjour à Alexia.
Bonjour.
Vous êtes toutes les 3 foulard blanc. Comme on peut le voir, pour ceux qui ont l'image, vous avez un foulard blanc. Et vous êtes scout unitaire de France. Alors, pour ceux qui ne sont pas très initiés au monde du scoutisme, vous allez pouvoir faire beaucoup de pédagogie et nous expliquer, mais ce que l'on doit d'abord signifier, pour commencer, c'est que vous fêtez vos 100 ans. Alors, pas vous, toutes les 3, même cumulées, mais vous fêtez les 100 ans de la fondation des Foulards Blancs. Qui est, Alexia, je me tourne d'abord vers vous, une association. C'est une association de scouts.
Oui.
Qui s'est mise au service au sein du sanctuaire de Lourdes, à Lourdes, il y a 100 ans.
Oui, absolument. C'est-à-dire que très tôt, des scouts venus en pèlerinage à Lourdes, accompagnant des malades, se sont dit que ça faisait sens en tant que scout de servir les malades, de se réunir pour ça. Et donc, ils ont monté une vie de camp scout sur les hauteurs du sanctuaire et ils se sont mis au service des malades. Et petit à petit, pour faire unité, ils ont pris le foulard blanc et tout ça a perduré jusqu'à aujourd'hui.
Foulard blanc, et là je me tourne vers vous Camille, qui est découpé justement dans des draps.
Les draps des malades, exactement.
Des malades.
Oui.
Ce qui est vraiment une symbolique très forte parce que autour du cou vous portez la symbolique même de votre service.
Exactement. Ça symbolise la proximité qu'on a avec les malades et de vouloir toujours les servir au plus proche et être dans une réelle proximité avec eux pour les aider et les servir à Lourdes.
Pour vous, Constance, c'est la même logique. Vous êtes, vous aussi, dans cette dynamique-là de foulard blanc avant d'être SUF. Là, on va rentrer dans la pédagogie du monde du scoutisme. Scout unitaire de France. Il y a les scouts de France, le guide des scouts de France, il y a les scouts d'Europe.
Exactement, il y a trois mouvements principaux catholiques en France. Donc, vous l'avez dit, l'association des guides et scouts de France, et scouts d'Europe, pardon, les scouts et guides de France et les SUF, donc les scouts unitaires. Et donc, les foulards blancs datant de 1926 ont été créés sous les scouts de France, alors que les trois mouvements d'aujourd'hui n'existaient pas. Et ensuite, même lorsqu'ils ont été créés, ça n'a absolument rien changé. On travaille toujours ensemble au service des malades, quel que soit notre uniforme. On est tous scouts.
Donc c'est l'occasion de dire qu'il y a des valeurs qui sont vraiment très communes, même s'il y a des mouvements, hein, on a compris, qui au cours de l'histoire se sont créés pour des raisons sans doute de sensibilité. Et donc, quand vous êtes à Lourdes, vous les scouts, j'ose vous dire, vous les scouts en général, vous vous sentez une communauté unie, non? Comment vous le voyez?
Totalement. En venant à Lourdes, on fait communauté, c'est même notre nom, la communauté des foulards blancs, qui est composée à la fois de la fraternité, qui sont tous les scouts qui sont venus servir au moins une fois dans leur vie avec nous, les malades à Lourdes, qui peuvent ensuite, au bout de quelques fois, être venus servir avec nous, demander à recevoir leur foulard blanc. Et ensuite, il existe une dernière étape qui s'appelle l'engagement foulard blanc, qui sera d'ailleurs, notre pèlerinage ce week-end sera une occasion de reprononcer cet engagement qui consiste à mettre notre promesse scout au service des malades, pas seulement à Lourdes, mais aussi dans chacun des jours de notre vie, et à accompagner une personne malade dans notre quotidien, notre vie de tous les jours.
Donc vous êtes réunis, là, c'est l'occasion de le dire, à l'occasion d'un pèlerinage pour les 100 ans. Hein. C'est la raison pour laquelle vous êtes de passage à Lourdes. Oui, Alexia.
J'allais rebondir sur ce que tu disais. On parle souvent de la bonne action quotidienne, la BA des scouts, qui est commune à tous les scouts. Et on pourrait dire que un scout foulard blanc, cette bonne action, eh bien, il l'exerce envers les personnes malades, les pèlerins à Lourdes.
Le monde du scoutisme est souvent on en a une belle image, hein, il y a des beaux engagements dont vous faites partie, parce qu'on va découvrir au cours de cette émission que vous avez des vies professionnelles par ailleurs, que le scoutisme ça donne sans doute du sens à vos vies, mais que ça n'est pas le tout de votre vie, même si c'est unifiant. Sur ces valeurs du scoutisme aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à dire? Au fond, un scout, il s'engage pourquoi? On parlait du service des malades, mais quel est le fondement de ce qui vous met en marche, vous toutes les trois et les scouts en général?
Un scout, ça se met au service. Alors, à Lourdes, c'est au service des malades, et notamment avec les foulards blancs, mais un scout en général se met au service des autres, au service de son prochain. Et en devenant foulard blanc, en venant servir les malades, on se met pas seulement au service des malades venus en pèlerinage à Lourdes, mais aussi des scouts qui viendraient, eux, servir les malades. Notre mission de foulard blanc, elle dépasse le service dans le sanctuaire. Elle devient service pour se mettre au service d'eux.
Oui, je comprends. Mais revenons sur les valeurs du scoutisme aujourd'hui. C'est le service, ça veut dire que c'est le service à l'unité de la société, à la bienveillance, à l'attention à l'autre, aux valeurs chrétiennes, que sais-je.
C'est une certaine façon, c'est une certaine humilité. C'est se mettre au niveau de n'importe qui, quel qu'il soit. Le service fait partie de la progression des scouts. C'est-à-dire que, comme vous le voyez sur chacune de nos épaules, on a différents flots avec différentes couleurs. Et celui qui représente le service, c'est le vert. C'est service et espérance. Alors le jaune, ça va être joie, communauté et foi. Le vert, le deuxième, c'est service et espérance. Et le troisième, c'est amour et charité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on porte sur notre uniforme et dans nos cœurs.
Vous êtes vraiment dans les vertus dites théologales.
Exactement.
Complètement. Et donc quand vous vous retrouvez à Lourdes, vous trouvez que le lieu Lourdes en fait est unifiant pour vous, le monde du scoutisme dont on a compris, hein, dès le début de cette conversation, qu'il était divers. Il y a même le scoutisme catholique et puis toutes les autres formes de scoutisme, hein. Oui. C'est unifiant Lourdes, c'est un appel qui répond à toutes les attentes les plus diverses.
Oui, vous parliez de valeurs. Une des questions qu'on pose dans le dialogue d'un engagement, c'est que veux-tu apporter aux malades ? La réponse attendue, c'est prière, service et joie. Et je pense que être unis, se retrouver en communauté scout pour se soutenir et pour vivre ce partage et cette grande joie, c'est aussi ça qui alimente la capacité derrière à aller servir et apporter prière, service et joie là-dedans.
Et lorsque vous portez ce message en dehors de Lourdes, vous n'êtes pas prise pour des naïves parce que dans un monde un peu compliqué, parfois à feu et à sang, oui, vous arrivez avec, oui c'est vrai, un regard extrêmement positif, un enthousiasme et une bienveillance qui peut surprendre, à tout le moins.
Il me semble que Bernadette est la sainte patronne des gens moqués pour leur foi. Est-ce que ce ne serait pas bon signe, finalement ? Je ne sais pas, je propose. Pourquoi pas un peu de naïveté ? Est-ce que ce ne serait pas un peu un antidote au cynisme aussi, qui est aussi une voie facile, quelque part. Ce regard un peu bienveillant ou un peu d'un autre monde, il répond aussi à un besoin, je pense, de si on ne sort pas de son égoïsme personnel, si on ne sort pas de la peur d'être un peu exploité quand on aide, quand on donne gratuitement, si on ne sort pas de ça, on se retrouve enfermé en nous-mêmes. On ne peut plus faire communauté, on ne peut plus faire service. Si, lors des tableaux de service, donc il y a de la vaisselle, c'est une vie de camp scout, il y a des tentes, il y a un réveil matin très tôt, il y a un petit déj, il y a de la vaisselle. Si j'ai peur de faire une assiette de trop, je ne peux plus faire ma part de vaisselle, finalement. Je ne sais pas.
Allez-y, réagissez.
Et puis, être vu comme naïf peu de... Peut-être, mais je pense pas qu'on soit tout le temps en joie, tout le temps en bonne humeur, tout le temps en positivisme. C'est une réponse qu'on apporte face à une réalité qui est souvent dure. Être confronté aux malades qui viennent en pèlerinage ici à Lourdes, la réalité, elle est dure. Il y a de la souffrance, il y a des pleurs, il y a des larmes. Et le but, c'est d'apporter un réconfort, d'apporter une joie et un positivisme. Ça ne veut pas dire qu'on voit le monde en rose totalement et qu'on vit au pays des bisounours. Ça veut dire qu'on choisit d'apporter ce positivisme, ce bonheur, cette joie à des personnes qui en ont besoin, à Lourdes, mais aussi ailleurs.
Vous avez prononcé plusieurs fois le mot de communauté. Se supporter, être ensemble, alors qu'on est différents, ça n'est pas très simple. Là aussi... peut-être cassons un peu trop la naïveté qui peut se dégager de propos trop bien pensés, trop bienveillants. Mais vous, quand vous vous retrouvez à Lourdes, dans ces camps dont vous parliez, devoir partager les tâches, j'imagine que chaque jour que Dieu fait, il faut faire l'effort, quoi, de supporter l'autre.
L'avantage qu'on a, c'est qu'on accueille exclusivement des scouts. Donc ils ont l'habitude, depuis pour beaucoup leur plus jeune âge, de vivre en communauté et de vivre avec entre 20, 30 personnes qui veulent vivre la même chose qu'eux. Donc oui, je vais pas mentir, il y a parfois des conflits ou des tensions, mais au final, on a tous l'habitude de cette vie en communauté et c'est ce qu'on recherche. Donc on fait en sorte que ça fonctionne.
Vous sous-entendez que c'est un chemin d'éducation, le scoutisme ? Que ça vous prend et que ça vous façonne et pour toujours.
C'est un peu cliché de dire ça parce que effectivement on a entendu depuis toujours que le scoutisme c'est une école de la vie, mais au final c'est cliché, mais c'est plutôt vrai. Ça nous apprend le vivre ensemble, ça nous apprend beaucoup de scouts, même la majeure partie de la pédagogie, c'est apprendre à travers le jeu. Donc c'est pareil, c'est apprendre à gagner, apprendre à perdre, apprendre à travailler avec les autres. Donc oui.
Nous allons marquer une pause dans cette émission, si vous le voulez bien, et juste après, nous allons découvrir que vous avez des vies professionnelles et que donc ces valeurs du scoutisme peuvent habiter vos vies professionnelles ou les percuter parfois, hein, sans doute. Donc nous retrouvons, si vous le voulez bien, Alexia, Constance et Camille, dans quelques secondes, juste après ceci.
Présence de passage à Lourdes. proposé par Mathias Terrier.
À l'occasion du centenaire des foulards blancs, nous recevons aujourd'hui dans cette émission Alexia, vous qui êtes la présidente de l'association des foulards blancs, dont on a expliqué que c'est un mouvement dans l'univers du scoutisme et singulièrement lié à Lourdes. Nous avons aussi la secrétaire générale, Constance. Merci aussi d'être là. Merci. Alors, je vous présente par les titres, mais vous êtes d'abord scout, hein, on l'a compris. Et puis, Camille est également parmi nous, également scout. Et vous, vous êtes responsable de la liaison que vous devez faire avec un monde spécifique du scoutisme, je crois, les SUF.
Oui, les Scouts Inter de France.
Voilà. Alors, on a essayé d'être un peu pédagogue, expliquer que le monde du scoutisme est à la fois divers et en même temps très uni par des valeurs, et qu'à Lourdes est né il y a 100 ans, alors ce qui est signifié par votre foulard blanc, les foulards blancs qui se mettent au service des personnes malades ou en situation de fragilité, particulièrement en pèlerinage à Lourdes. C'est beau de fêter 100 ans, alors vous, on sent héritier, vous, Madame la Présidente, de 100 ans d'histoire, ça pèse un peu trop sur les épaules.
C'est très impressionnant et très, très encourageant en même temps. Ça rend humble dans le sens où on est un petit maillon d'une chaîne qui est bien plus vaste que nous. Et en même temps, bah, un maillon dans une chaîne, c'est important, sans quoi il y aurait une rupture dans tout ça. Et donc, on se sent chargé de transmettre la balle à la génération d'après.
Alors, en dehors de cet engagement, vous avez des vies professionnelles. Je l'ai annoncé dans la première partie de cette émission. Vous êtes kinésithérapeute.
Exact.
Vous êtes...
je suis attachée de presse.
Attachée de presse. Et puis, vous, Camille, vous êtes...
Je fais de la gestion de projet pour une association.
Voilà. Et donc, la question qu'on a envie de vous poser, c'est que comment vous vivez avec votre engagement scout dans vos vies respectives ? Est-ce que c'est tous les jours, tout le temps, et que quelque part, ça vous nourrit sans que parfois vous vous en rendiez compte, d'ailleurs ? Alexia ?
Oui, moi, c'est sûr que l'engagement et même le contact auprès des personnes malades à Lourdes a façonné aussi mon exercice, et en particulier le mode de relation, peut-être, avec les patients, puisque ici à Lourdes, où je n'exerce pas, sauf circonstances exceptionnel, je m'adresse en premier lieu strictement à l'humain. Pas de technique, pas de stratégie thérapeutique, pas de diagnostic en kinésithérapie. C'est un rapport à l'être humain. Et je pense que ça peut façonner vraiment en bien un personnel de santé, au-delà de la technique, parce que une technique en kinésithérapie, mais tout acte même médical au sens très large peut être une épreuve pour la personne qui le vit, et le fait d'avoir régulièrement ce rappel de ce que c'est vivre l'épreuve, la fragilité, la vulnérabilité, la maladie, parfois dans des circonstances où vraiment c'est pas seulement qu'on ne l'a absolument pas mérité, c'est aussi qu'on le subit au sens fort du terme. Et être là pour accompagner et écouter sans être accaparé par la stratégie thérapeutique, ça aide à mieux comprendre. Et peut-être que quand ensuite, dans mon exercice à Paris, j'écoute quelqu'un où je travaille simplement, ça change peut-être mon regard sur l'autre. En tout cas, je l'espère que ça m'humanise, moi, en tant que kinésithérapeute. Ce que je me souhaite.
Et vous aussi, vous pouvez, Camille, témoigner de votre engagement scout, d'une façon ou d'une autre, dans votre univers.
Je pense que ça a façonné ma relation à l'autre, à mes collègues, aux personnes avec qui j'interagis au quotidien. La vie en communauté m'a préparée à beaucoup de choses dans la vie professionnelle. Interagir avec un collègue est plus facile, même quand les tempéraments ne correspondent pas forcément. Ou travailler en équipe sur de la gestion de projet, c'est souvent demandé. Le travail en équipe est souvent plus facile à côté. Une de mes missions est aussi de créer de la cohésion au sein des équipes de l'association. Voilà, ça, c'est des choses que j'ai aussi appris dans mon scoutisme et qui m'ont façonné dans ma vie professionnelle.
Et vous, Constance, vous êtes dans le monde de la presse, dans le monde de la communication en général.
Tout à fait.
Qui n'est pas un monde de naïveté, et parfois même de un certain cynisme, hein, oui. De stratégie. On reprend le mot que vous avez employé, mais appliqué à un autre univers. Vous arrivez avec vos valeurs de scout, vos valeurs chrétiennes en général.
Oui, bah, de manière générale, je pense que le scoutisme apporte une forme de débrouillardise. On peut être certes naïf, mais aussi très terre à terre, parce que on doit pouvoir construire des différentes installations pendant un camp dans un temps limité, et donc trouver certaines solutions pour tel ou tel problème.
Donc on sait rebondir, on sait être résilient.
Exactement.
Trouver des solutions.
Ouais, surtout des
on n'est pas déstabilisé à la première.
Voilà, c'est
premier
ça.
Orage, quoi.
Exactement, tout à fait. Et des solutions que quelqu'un qui n'aura pas été scout n'aurait pas forcément pensé. Et après, plus précisément à Lourdes, c'est ce que j'aime beaucoup à Lourdes, c'est le contact avec les personnes plus vulnérables. Pour beaucoup de ces personnes, principalement les personnes âgées, ça peut être leur seule sortie dans l'année, en dehors d'une maison médicalisée. Et donc voir un sourire de personnes jeunes, de scouts, etc., parfois ça illumine leur journée, et ça suffit pour illuminer leur journée. Et effectivement, dans un monde assez cynique dans lequel je travaille, parfois j'ai juste à me poser et à sourire, et ça va mieux.
Nous aimerions les uns et les autres, les unes et les autres, que vous nous disiez comment vous avez à un moment rencontré Lourdes, le sanctuaire, le lieu. Pour vous, Camille, comment ça s'est passé?
La première fois que je suis venue à Lourdes, c'était avec mon collège. Un voyage organisé.
Quel âge?
J'étais en sixième, j'avais 11 ans. Et puis ensuite, je suis venue avec le FRAT, le pèlerinage qui est organisé pour les jeunes de l'Île-de-France.
Et à 11 ans, la jeune fille que vous êtes se dit « je reviendrai ici ».
Oui.
Tout de suite.
Je me sentais dans une certaine sérénité à Lourdes, dans le sanctuaire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Quel est votre témoignage de la rencontre,
c'était également avec le FRAT, FRAT lycéen en 2016. Puis après, le FRAT, c'est quand même une ambiance qui est très particulière, très, très survoltée. On découvre Lourdes d'une manière totalement différente que lorsqu'on y va en pèlerinage, par exemple avec les foulards blancs. Donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée, mais j'avais fait quelques recherches sur Lourdes et j'ai été tombée sur quelques infos sur les foulards blancs. Mais c'est tout. J'avais pas poussé plus loin, et c'est par hasard 2 ans plus tard que ça m'est sauté aux yeux, parce que je suis revenue avec mon feu, donc en tant que guide aîné, pour une semaine de service, donc en tant que scout. Et j'ai su assez immédiatement que je voulais continuer, donc j'ai demandé à recevoir mon foulard cette même semaine-là.
Alexia ?
J'ai découvert aussi grâce au FRAT.
Le FRAT, c'est donc le fraternel historiquement, et c'est ce grand pèlerinage de tous les diocèses d'Île-de-France.
Oui. Et j'ai été saisie aussi par cette sérénité qui se dégage du sanctuaire. J'avais entendu parler des foulards blancs par les journaux associatifs scouts, et je suis revenue en première année de kiné, curieuse de rencontrer d'autres scouts, et en me disant aussi qu'il y en aurait peut-être d'autres qui seraient dans le même style d'études que moi, et oui, j'ai su qu'il y avait quelque chose là à travailler, à laisser travailler aussi en moi, à approfondir. Mais chaque année, je me suis juré que ce serait la dernière.
Parce que ça vous prend beaucoup de temps.
Parce que
vos vacances.
Parce que c'est très intense. C'est très intense, et à chaque fois, je me dis, c'est presque trop intense pour moi. Ça y est, je suis au bout.
Et ça fait 10 ans.
Et ça fait 10 ans que je dis ça.
Ce qu'il faut dire, c'est que vous venez à Lourdes sur vos vacances, puisque vous avez, comme oui. on l'a dit, des engagements professionnels ou personnels, et qu'il faut prendre des vacances pour venir à Lourdes. Vous venez, par exemple, vous-même, Alexia, combien de fois par an au service du sanctuaire ou...
Généralement, je viens autour du 11 février, pour l'anniversaire des apparitions. Ensuite, j'assure moi-même une des permanences.
Durant l'été ?
Durant l'été, une semaine. Et il n'est pas rare que je vienne une troisième fois, comme c'est le cas, par exemple, aujourd'hui.
Voilà, pour ce pèlerinage anniversaire.
Oui.
Justement, dans la dernière séquence de cette émission, 100 ans, c'est à la fois regarder sur toute une belle histoire et en même temps se projeter sur l'avenir. Vous avez quel projet, vous, les foulards blancs, sur l'avenir qui vous fait face ? Proche et plus lointain, peut-être, Madame la Présidente, puisque vous êtes la Présidente de la société.
Et donc, là, le premier grand projet commence demain, avec l'ouverture du pèlerinage anniversaire, où oui. on accueille autour de 70 personnes.
Qui sont des anciens.
Des anciens ou des, et des actifs.
Des actifs.
Ça va être très beau, je pense. Ensuite, on a les permanences d'été, et donc inviter un maximum de scouts qui le souhaitent à découvrir Lourdes, et que ce soit avec nous ou d'ailleurs auprès d'autres structures, venez voir par vous-même parce que c'est formidable. Et après, il y a aussi un projet en concertation avec le village des jeunes je ne saurais pas comment formuler ça.
De rénover des infrastructures.
De rénover des infrastructures, d'avancer aussi pour déployer l'accueil qu'on reçoit au village des jeunes depuis que l'association existe.
Le village des jeunes, c'est une dizaine d'hectares sur les hauteurs de Lourdes. Et en fait, c'est un peu le vote chez vous.
Exactement. Il y a une vraie symbiose entre les foulards blancs et le village des jeunes. Il y a une vraie histoire commune et l'un n'existerait pas sans l'autre et vice-versa. Mmh.
Les premiers scouts qui sont venus servir les malades à Lourdes se sont installés sur les hauteurs, ont demandé à un fermier s'il pouvait leur prêter un bout de terre, un tuyau pour un peu d'eau. Et de là est né, alors avec plusieurs acteurs qui ont contribué, mais de là est né le camp des jeunes, maintenant village des jeunes, qui accueille des scouts, des adolescents, des enfants, toute l'année
et tout l'été. Des groupes les plus divers. Et votre projet, très concrètement, c'est de permettre la rénovation d'une cuisine qui vous permet de faire la popote pendant tout l'été.
C'est ça. Un espace du village des jeunes qui s'appelle la cuisine Beldon, qui est l'endroit autour duquel on se retrouve tout l'été, qui est un peu le cœur de nos permanences l'été. Et l'idée, ce serait de remettre aux normes et de rénover cette cuisine pour pouvoir servir de toutes nos forces.
Donc vous avez besoin de plusieurs milliers d'euros pour aider le sanctuaire à faire cet investissement.
Oui, si on peut, ce serait je pense un beau cadeau pour les générations futures.
Et très concrètement, il y a des informations sur un site internet pour savoir si on veut vous aider, comment faire et passer à l'acte.
Voilà, il y a deux options qui s'ouvrent à vous. La première, c'est l'association, je crois, Lourdes Jeunesse, qui est le propriétaire, en fait, qui représente notamment le village des jeunes, mais il faudrait voir un peu plus large. Donc ça, c'est une première solution. Il y a une newsletter, Les Amis du village des jeunes, qui donne beaucoup d'informations sur tout ce qui se fait de notre côté, mais aussi au sein du projet du village des jeunes. Et de notre côté, via le site internet
foulard blanc au pluriel avec un tiret .fr.
Voilà. Foulard-blanc.
Je pense que si on tape sur un moteur de recherche
foulard blanc lourd,
ça marche.
On finira par trouver quelque chose. Oui. Et donc c'est sur ce site internet où on peut mieux comprendre ce que vous êtes.
Il y a toute notre histoire, une partie en tout cas de notre histoire un peu vulgarisée, une partie de l'histoire de Lourdes également, les informations sur les permanences de cet été pour les inscriptions, tout ça.
Et le lien pour faire le don.
Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci mesdames. À vous.
Merci. Merci à Constance, merci Camille et merci Alexia. On vous souhaite un bon pèlerinage du centenaire des foulards blancs. Au revoir.
Merci infiniment.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
À Montauban, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Chrétiens et musulmans sont appelés à une mission commune, celle de redonner vie à l'humanité là où elle s'est refroidie. Les mots du pape